OK, on va commencer notre 24e leçon dans notre série sur l'histoire de l'Église. On va continuer dans notre les précurseurs de la Réforme. On va regarder aujourd'hui Jean Hus, qui a vécu entre 1369 et 1415. Et il va y avoir deux parties parce qu'il y avait pas mal de matériel, les diviser en deux leçons. Alors, on avait vu la semaine dernière que les idées de Wycliffe et aussi ceux des Lollards avaient eu un rayonnement considérable en Angleterre et hors d'Angleterre, et particulièrement à Prague et dans toute l'Europe centrale, où elles inspirèrent un autre grand pré-réformateur qui s'appelait Jean Hus. Alors, Jean Hus, c'est une personne qui venait de Bohême, donc la République tchèque, qui a été suscité après la mort de Wycliffe et a été un des principaux précurseurs de la Réforme. Aujourd'hui, on connaît très peu son histoire, mais il y a eu une influence très importante dans la partie de l'Europe dans laquelle il était situé. Alors, la Bohême est en grande partie habitée par une population de race slave. Le christianisme y a été introduit dans le 11e siècle, à l'époque des guerres de Charlemagne. C'est vers les années 820 à 826 que le moine Urolf évangélisa la partie est de la Bohême nommée Moravie et qui, à cette époque, était un royaume gouverné par ses propres princes, mais plus ou moins sous l'influence des princes allemands voisins. L'Église romaine y prédominait alors. Le culte se célébrait en langue latine et la religion ne consistait guère qu'en forme et en cérémonie, qui laissait le peuple dans l'ignorance des vérités de l'Écriture. En 863, les princes moraves Ratislav, Slavopluk et Kozel, voulant à la fois s'affranchir de la tutelle des princes allemands et du joug de Rome, envoyèrent à l'empereur grec de Constantinople des messagers pour lui dire « Notre peuple est baptisé, mais nous n'avons pas de docteur pour nous instruire et pour traduire les Saintes Écritures dans notre langue. Envoyez-nous donc quelqu'un qui nous explique les Écritures. » Il y avait alors deux frères, nés dans le premier quart du 9e siècle, nommés Méthodius et Constantin. Ce dernier, à la fin de sa vie, prit le nom de Cyril. Ils étaient fils d'un homme riche et considéré, peut-être d'origine slave. Il leur avait fait donner une éducation soignée et ils avaient acquis la connaissance de plusieurs langues, entre autres de la langue slave. Constantin, le plus jeune, remarquable par sa science, se voua à l'état ecclésiastique. Méthodius fut d'abord un homme du monde. Il avait servi dans l'armée et l'empereur lui avait confié l'administration d'une principauté slave. Mais après quelques années, Méthodius abandonna le monde, se fit moine et se retira dans un couvent où son frère vint le rejoindre. Mais ce n'était pas pour rester inactif. Les missionnaires de ces temps-là, soit dans l'Église latine, soit dans l'Église grecque, sortaient tous des couvents et portaient le christianisme chez les nations encore païennes du nord et de l'est de l'Europe. Constantin avait commencé une mission chez les Bulgares. Et vers l'an 860, les deux frères furent envoyés par l'empereur grec Michel, sur la demande du prince des Khazars, vers ce peuple qui habitait la Crimée et les bords du Don pour l'instruire et le convertir. Et c'est après cette mission que, pour répondre aux désirs des princes moraves, l'empereur leur envoya Méthodius et Constantin. Les deux frères furent bien accueillis par le prince et son peuple à Valégrad, maintenant Olomouc ou Olomouc en Moravie. Dès qu'ils furent arrivés, ils se mirent à prêcher l'Évangile dans la langue slave commune à la Bohême et à la Moravie et à instruire la jeunesse. Le culte divin fut aussi célébré dans la langue vulgaire. Le zèle et la piété des missionnaires amenèrent, par la grâce de Dieu, beaucoup de conversions. Des églises et des écoles s'élevèrent de toutes parts. Méthodius et Constantin perfectionnèrent l'alphabet et l'écriture slave, et complétèrent la version de la Bible dont ils avaient déjà traduit quelques portions longtemps auparavant. Ils poursuivirent leurs travaux en Moravie et dans le reste de la Bohême, malgré l'opposition des prêtres romains. Ceux-ci, chose étrange à dire, n'admettaient pas qu'on pût louer Dieu en d'autres langues que l'hébreu, le grec et le latin. Or, Méthodius et Constantin, sans se détacher de l'Église romaine, qui alors était encore unie à l'Église orientale grecque, étaient avant tout préoccupés du désir d'amener des âmes à Christ. Ils croyaient avec raison que le peuple ne pouvait être édifié et consolé que dans sa langue maternelle, et à cause de cela, ils tenaient à se servir dans le culte de la liturgie en langue slave. Les différends avec les prêtres romains les emmenèrent à entreprendre un voyage à Rome pour exposer leurs vues au pape Adrien II. Celui-ci les reçut avec cordialité et les approuva. Il rétablit même en faveur de Méthodius, l'évêché de Pannonie, dont le siège était à Blatno, maintenant Mosaburg, auprès du lac Balaton. De là, Méthodius évangélisa jusqu'en Croatie, où la liturgie slave s'est conservée jusqu'à ce jour. Quant à Constantin, épuisé par ses travaux, il mourut à Rome en 869 dans un couvent où il s'était retiré et où il avait pris le nom de Cyrille. Méthodius ne jouit pas en paix de la position et des privilèges que le pape lui avait accordés. Il fut accusé par les archevêques et les prêtres allemands d'avoir porté atteinte aux droits de l'évêque de Salzbourg sur la Pannonie et subit un emprisonnement de 3 années. Mais la Moravie était tombée sous la domination de Svatopluk. Il se rendit de nouveau à Rome en 881 et, voulant justifier devant le pape, il reçut de celui-ci plein pouvoir pour continuer ses travaux. Il mourut à Olmütz en 885 après une vie consacrée d'une manière infatigable au service de Dieu. Après sa mort, le parti allemand reprit le dessus et chassa les prêtres slaves. Le rituel latin s'introduit de nouveau, graduellement, et les deux pays, la Bohême et la Moravie, tombèrent de plus en plus sous la domination du pontife romain. En 967, le pape Jean XIII y rétablit la hiérarchie romaine et tous les abus de son Église. En 1079, le pape Grégoire VII défendit l'usage de la liturgie orientale, c'est-à-dire de l'Église grecque, définitivement séparé de l'Église romaine et de la célébration du culte en langue vulgaire. Depuis ce temps, le romanisme prévalut et tout ce qui ressemblait à une religion vitale et scripturaire disparut peu à peu. On ne peut cependant douter qu'au milieu de beaucoup de ténèbres, d'erreurs et de superstitions, Dieu n'eut dans ces pays un résidu fidèle qui recevait la vérité et retenait la foi de l'Évangile. Cela doit avoir été le cas, car en quelques endroits, la langue vulgaire ne cessa pas d'être employée dans le culte public et la scène d'être donnée sous les deux espèces. Quelques-uns des puissants seigneurs étaient aussi favorables à l'Évangile et protégeaient leurs frères pauvres, comme aussi les Vaudois, qui, exilés de leur terre natale, s'étaient réfugiés en Bohême et contribuait à y répandre la précieuse semence de la parole de Dieu. Alors, ce que nous venons d'exposer nous aidera à comprendre l'histoire de Huss. Nous avons déjà fait allusion au triste état dans lequel se trouvait la chrétienté en Occident à la fin du 14e et au commencement du 15e siècle. Nous en dirons encore quelques mots avant de nous occuper de Jean Huss qui vécut à cette époque. Au commencement du 15e siècle, l'Église catholique romaine, en dépit de l'unité dont elle se vante, avait à sa tête deux papes opposés l'un à l'autre. Benoît XIII avait sa résidence à Avignon et Grégoire XII à Rome. Cet état de choses durait depuis l'époque où Philippe le Bel, roi de France, après avoir humilié la papauté dans la personne de Boniface VIII, avait obligé le pape Clément V à transférer à Avignon le siège pontifical afin que les papes demeurassent sous la puissance des rois de France. Mais un certain temps après, sous l'influence de l'empereur allemand, les Romains élirent un autre pape, celui d'Avignon, refusant de retourner à Rome. Soit le pape d'Avignon, soit celui de Rome prétendait être le vicaire de Christ sur la terre et s'accusait l'un l'autre devant le monde entier d'hypocrisie, de parjure et de desseins secrets les plus honteux. Ces princes de l'Église, Benoît XIII et Grégoire XII, bien qu'étant des vieillards d'environ 70 ans, avaient une conduite telle que l'Europe entière en était scandalisée. Que faire pour guérir les plaies de l'Église et rétablir l'unité brisée? Les deux papes promettaient bien et juraient même d'abdiquer leur dignité si les intérêts de l'Église le réclamaient. Mais ils trouvaient bientôt un prétexte pour manquer leur parole. Alors les cardinaux des deux partis se réunirent à Livourne afin de se consulter sur les moyens de mettre un terme à ce schisme affligeant. Ils arrivèrent à la conclusion que, dans les circonstances présentes, ils avaient le droit de convoquer un concile qui déciderait entre les deux prétendants au siège de Rome et rétablirait ainsi l'unité de l'Église. La ville de Pise, en Italie, fut choisie pour le lieu où le concile se réunirait. Bien que ce fût une chose inusitée qu'un concile fût convoqué sans l'approbation du pape ou de l'empereur, toute l'Église approuva la mesure que les cardinaux avaient prise. Les papes furent ainsi privés de leurs plus hauts privilèges et appelés à répondre devant un nouveau tribunal. Mais ils avaient tellement perdu l'estime de la chrétienté que tout le monde applaudit à la résolution des cardinaux. Le concile s'ouvrit le 25 mars 1409 et ce fut un des plus remarquables que mentionne l'histoire de la chrétienté, soit par le nombre, soit par la qualité de ceux qui y assistèrent. On y comptait 22 cardinaux, 4 patriarches latins, 12 archevêques et 14 représentants d'archevêques, 24 évêques et 102 représentants, 87 abbés et 200 représentants, un grand nombre de prieurs, le grand maître des chevaliers de Rhodes et 16 commandeurs du même ordre, des députations de toutes les universités, plus de 300 docteurs en théologie et des envoyés des rois et princes de l'Europe. Que ne devait-on pas accomplir une assemblée si respectable? Les séances durèrent du mois de mars jusqu'à la fin du mois d'août. Après beaucoup de délibérations, les deux papes furent jugés à l'unanimité. Le 5 juin, la sentence fut rendue. Tous deux furent déclarés hérétiques, parjure, opiniâtres, incapables d'exercer l'autorité suprême et illimités du pouvoir papal et même indignes d'occuper aucune dignité. Le siège de Pierre fut déclaré vacant et il s'agit alors de choisir un nouveau pape, chose plus difficile que de déposer les deux autres. Les 24 cardinaux chargés de faire ce choix portèrent leur suffrage sur Pierre de Candia, cardinal de Milan, qui fut élu sous le nom d'Alexandre V. Mais les deux papes d'Avignon et de Rome rejetèrent la décision du concile et continuèrent à exercer leurs fonctions comme pape légitime, lançant l'un et l'autre leur malédiction et leur excommunication contre le concile et le nouveau pape, leur rival. Il y eut donc trois papes. Le concile, loin de guérir le schisme, l'avait agrandi. Où était l'unité de l'Église romaine? Où la succession apostolique, fondement de cette unité? Alexandre V ne vécut qu'un an après son élection. À sa place, on nomma Jean XXIII, homme de l'aveu des écrivains les plus sérieux, un homme sans principe, sans mœurs et sans aucune crainte de Dieu. Les difficultés furent plus grandes que jamais. Qui avait-il à faire, pouvait-on se demander? La papauté semblait en danger de sombrer. Le pape lui-même était insuffisant pour rétablir la paix dans l'Église. L'empereur allemand, Sigismund, résolut d'intervenir, montrant ainsi, pour le bien de l'Église, plus d'intérêt que les papes. D'ailleurs, d'accord avec le roi de France et d'autres souverains, il engagea Jean XXIII à convoquer un concile général de toute l'Église afin de mettre un terme aux luttes funestes qui l'agitaient. La ville impériale de Constance fut choisie pour recevoir dans ses murs l'auguste assemblée. L'afflux de personnes de toutes conditions attirées dans la ville pour cette occasion était si grand qu'on compte que le nombre de chevaux qui amenèrent les assistants était de 30 000. Outre les nombreux dignitaires de l'Église, plus de 100 princes, 108 comtes, 200 barons et 27 chevaliers s'étaient rendus à l'invitation du pape. Des tournois, des fêtes, des plaisirs de toutes sortes se succédaient pour délasser les membres du concile de leurs occupations spirituelles. 500 chanteurs avaient été rassemblés, prêts à charmer les heures de loisir des saints prélats et des gentilshommes et à restaurer leurs esprits. Tous ces princes de l'Église, tous ces ecclésiastiques et ces grands de la terre étaient réunis afin de consulter pour la guérison de la plaie mortelle de la papauté. Mis à part quelques exceptions, l'histoire nous rapporte quelle fut la conduite abominable, l'impiété, la honteuse hypocrisie de ces soi-disant saints prêtres et les faits scandaleux dans la ville de Constance fut témoin durant les 3 ans et demi que dura le concile commencé le 5 novembre 1414, sans parler de l'impie mise à mort de deux témoins de Christ, Jean Hus et Jérôme de Prague. Le but du concile de Constance était double. En premier lieu, il s'agissait de mettre un terme au schisme et, secondement, de réprimer ce que l'on nommait les hérésies de Wycliffe et de Hus. On se proposait bien aussi de réformer certains abus dans l'Église, mais il semble qu'à cet égard, les choses restèrent dans le même état. Quant au premier point, après avoir établi qu'un pape est assujetti au jugement d'un concile général de l'Église, le pape Jean XXIII fut déposé à cause de sa vie immorale et de son parjure vis-à-vis de l'empereur. Grégoire et Benoît subirent le même sort et s'y résignèrent. À leur place, on élut Othon, dit Colonna, sous le nom de Martin V. Nous avons donné ces détails pour montrer ce qu'était alors ce qu'on appelait la Sainte Église catholique. Pour ce qui regarde les soi-disant hérésies abhorrées de Wycliffe et de Hus, nous verrons comment le Concile agit pour les réprimer. Remarquons seulement ici combien, au point de vue de l'Église romaine, le danger était grand. Les précieuses vérités de l'Évangile, en dépit des tortures et des bûchers de Rome, avaient jeté de profondes racines dans des milliers et des centaines de milliers de cœurs et s'étaient répandues dans presque tous les pays de l'Europe. En l'an 1416, à ce même concile de Constance, un an avant le martyre de Cobham, on avait vu la semaine passée que c'était un lord qui travaillait avec les Lollards, et 36 ans après que Wycliffe eut traduit la Bible, l'archevêque de Lodi déclarait que les hérésies de Wycliffe et de Hus avaient trouvé des zélés partisans presque partout, en Angleterre, en France, en Italie, en Hongrie, en Russie, en Lituanie, en Pologne, en Allemagne et dans toute la Bohême. Alors, la papauté était grandement en danger. Ainsi, un ennemi déclaré rendait, sans le savoir ou sans y penser, témoignage à la puissance merveilleuse de la parole de Dieu. L'homme ne peut rien contre la vérité. Indépendamment des semences de vérité qui étaient restées cachées en Bohême, comme nous l'avons fait remarquer, une circonstance spéciale contribua à réveiller les esprits et à préparer la voie à la réception de l'Évangile. En 1382, 2 ans avant la mort de Wycliffe, la princesse Anne de Luxembourg avait épousé Richard II, roi d'Angleterre. Anne était une femme pieuse qui aimait et sondait les Écritures. Son mariage établit entre les deux pays des relations étroites dans un temps où les enseignements de Wycliffe se répandaient avec une rapidité extraordinaire. Des hommes savants de Bohême, entre autres Jérôme de Prague, allèrent à l'Université d'Oxford et à leur retour dans leur pays y apportèrent plusieurs des écrits de Wycliffe que l'on traduisit en latin et en langue bohème. Ce qui valait davantage, plusieurs avaient reçu dans leur cœur les vérités enseignées par le réformateur. D'un autre côté, des étudiants anglais se rendirent aussi à l'Université de Prague et apportèrent avec eux les livres de Wycliffe. La reine Anne elle-même favorisait ce mouvement religieux. Après sa mort, qui eut lieu en 1394, plusieurs des personnes qui l'avaient suivi revinrent en Bohême et contribuèrent aussi à répandre les doctrines évangéliques. Elles pénétrèrent ainsi jusque parmi les membres de l'université, qui se mirent à lire et à examiner les livres qui les renfermaient. Du nombre de ces docteurs se trouvait Jean Hus, dont nous allons maintenant nous occuper. Voyez-vous ce qui est arrivé? Tout le mouvement d'Angleterre, à cause des gens qui se déplaçaient des universités, entre universités, quand ils partaient de l'Angleterre et emmenaient leurs livres à Prague, dans les universités. Alors, ça circulait, les idées de Wycliffe. Et Jean Hus était prêtre à ce moment-là et travaillait dans une université. On va voir comment ça s'est développé et comment la papauté a voulu écraser cela. Et Jean Hus, d'or, il était né le 6 juillet 1369 dans la petite ville de Usinetz. Pourquoi on l'appelle Jean Hus? Parce qu'il s'appelle Jean, il venait de Usinetz, donc on l'appelait Jean Hus. Souvent, à cette époque-là, on disait le nom de la personne et il l'associait avec le nom d'une ville. Alors, il venait de Usinetz, donc c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Jean Hus, d'où il tira son nom, situé au sud de la Bohême, près des frontières de la Bavière. Ses parents étaient d'humble extraction, comme le furent ceux de Luther. Ils purent cependant envoyer faire ses études à l'Université de Prague. On raconte que lorsque sa mère le conduisait à l'université, son père était déjà mort, elle apportait au recteur un présent qu'elle perdit dans le voyage. Très affligée de cette perte, elle se mit à genoux à côté de son fils, le recommanda au Tout-Puissant et invoqua sur lui sa bénédiction. Sa prière fut exaucée, mais elle ne vécut pas assez longtemps pour voir combien richement Dieu lui répondit. La carrière universitaire de Hus fut brillante. Il se distingua de bonne heure par une très grande intelligence et en même temps par sa modestie, sa fermeté et sa conduite irréprochable. Il était d'un abord doux et affable et gagnait les cœurs de tous ceux qui s'approchaient de lui. Pendant ses années d'études, il se montra très attaché à la papauté. Il était un fils dévoué de l'Église de Rome et avait une foi entière dans la vertu des sacrements. Ainsi, à l'époque du jubilé de Prague en 1393, il donna ses dernières pièces de monnaie aux confesseurs de l'Église de Saint-Pierre. Comme les écrits de Wycliffe avaient été déjà répandus en Bohême, Hus, comme nous l'avons dit, en eut connaissance. Mais il ne lut d'abord que ses œuvres philosophiques qu'il étudia soigneusement. Hus était entré dans les ordres et se fit distinguer bientôt par ses remarquables capacités. Il fut revêtu successivement des grades universitaires, maîtrise S.A., professeur à l'université et enfin doyen de la faculté de philosophie. Sa renommée était parvenue jusqu'à la cour du roi Wenceslas, la reine Sophie de Bavière, qu'il avait choisie pour son chapelain. Jusqu'alors, rien n'annonçait en Hus un réformateur, bien que sans doute il vit les abus de l'Église romaine et la corruption, non seulement des nobles et du peuple, mais aussi du clergé. Mais en 1402, il fut nommé prédicateur de la chapelle de Bethléem. C'était un édifice pouvant contenir 3000 personnes qui avait été élevé en 1394 par un riche citoyen de Prague, agréé par le roi et l'archevêque et destiné uniquement par le fondateur à la prédication en langue bohème. Il disait, lorsque Christ apparut à ses disciples après sa résurrection, il leur donna commission de prêcher la parole de Dieu de manière à conserver constamment sa mémoire vivante dans le monde. Dès le moment où Hus commença à prêcher dans la chapelle de Bethléem et qu'il eut à sonder davantage la parole de Dieu, un grand changement semble s'être opéré en lui graduellement toutefois. On peut dire qu'il fut alors converti à Dieu. En même temps, Dieu appliquait la vérité à l'âme de ses auditeurs. Selon un écrivain contemporain, la condition morale des habitants de Prague à cette époque était la plus basse possible. Le roi, dit-il, les nobles, les prélats, le clergé, les citoyens s'abandonnaient sans contrainte à l'avarice, à l'orgueil, à l'ivrognerie, à la débauche et à tous les vices. Au milieu de cette corruption, Huss se leva, réveillant les consciences par sa parole. C'était tantôt contre les prélats, tantôt contre les nobles, puis contre le clergé inférieur qu'il dirigeait ses coups. Ainsi, Dieu s'était suscité un champion pour combattre le mal et l'erreur. C'est alors aussi que Huss lut les écrits théologiques de Wycliffe et qu'il les étudia sérieusement, admirant la piété de l'auteur et d'accord avec lui dans les réformes que celui-ci demandait. « Je suis attiré par ses écrits, disait-il, car il s'efforce avec énergie à ramener tous les hommes à la loi du Christ et spécialement le clergé, invitant ce dernier à renoncer à la pompe mondaine et à vivre comme les apôtres et selon l'exemple de Christ. » Huss fut alors appelé à prêcher fréquemment dans la chapelle de Bethléem. Aux nombreux jours de fête de l'Église, il le faisait souvent deux fois dans la même journée et toujours en langue vulgaire. Il devait ainsi étudier de plus en plus la parole de Dieu et creuser toujours plus profondément dans la mine inépuisable des vérités qu'elle renferme. De cette manière, il en acquérait une conception de plus en plus claire et croissait rapidement dans la connaissance des choses divines en s'imprégnant de l'esprit de la parole infaillible. Ce qu'il recevait aussi intérieurement par la parole et l'esprit de Dieu, il le répandait au dehors dans ses prédications, qui exerçaient une puissante action sur ses auditeurs. Plusieurs étaient saisis par la vérité, d'autres s'y opposaient, ainsi qu'à celui qui l'annonçait. Mais Huss trouva dans l'archevêque et dans la reine des protecteurs, de sorte qu'en dépit de l'opposition de ses ennemis, il put continuer à prêcher, proclamant les vérités de la Sainte Écriture et en appelant constamment à elle pour justifier ce qu'il disait. Autour de lui se formait et s'accroissait toute une communauté d'âmes pieuses qui avaient soif des eaux vives de la grâce et faim du pain de vie, qui est Christ. Huss était un vrai pasteur d'âmes, surtout pour les gens de classe les plus humbles, qui venaient à lui avec une conscience troublée que l'absolution du prêtre ne soulageait pas. Il n'avait pas conscience du mouvement qui commençait par son moyen et ignorait où il serait conduit. Il était entré sans en avoir l'idée dans la voie de la réformation que Dieu opéra plus tard. Un événement vint vers ce temps-là jeter dans les esprits à Prague des pensées propres à ébranler la foi en l'autorité du pape. Dans cette ville arrivèrent deux gradués d'Oxford, disciples de Wycliffe, nommés James et Conrad de Canterbury. Ils tinrent des disputes publiques sur la doctrine de la primauté du pape. Les choses n'étaient guère mûres pour une tentative aussi hardie, et les autorités de la ville leur enjoignirent le silence, mais ils savaient peindre aussi bien que parler, et leurs pinceaux se montrèrent pleins d'éloquence. Avec l'assentiment de leur hôte, ils peignirent dans le vestibule de la maison, d'un côté l'entrée du Seigneur à Jérusalem, débonnaire et monté sur le poulain d'une ânesse, et de l'autre la magnificence plus que royale d'un cortège pontifical. On y voyait le pape sortant, portant la triple couronne, couvert de vêtements resplendissants d'or et brillants de pierres précieuses, monté sur un cheval richement caparaçonné, précédé de trompettes proclamant sa venue et suivi d'un cortège nombreux de cardinaux et d'évêques splendidement vêtus. Ses peintures parlaient aussi haut que des discours et le contraste qu'elles présentaient frappait chaque spectateur. Toute la ville fut émue, une grande excitation fut produite et les visiteurs anglais trouvèrent prudent de s'éloigner. Mais ils avaient fait naître des pensées qu'aucune autorité n'avait le pouvoir d'étouffer. On peut cependant se demander si les consciences et les cœurs étaient atteints par de semblables attaques contre l'erreur et les abus, et si la prédication pure et simple de la vérité, comme elle est en Jésus, n'était pas bien préférable pour atteindre ce but et détacher les âmes d'un système antichrétien en les emmenant à jouir du salut et de la paix. Huss fut un de ceux qui vinrent voir les peintures des deux Anglais. Il s'en retourna tranquillement et se mit à étudier de plus près les écrits de Wycliffe. Il fut d'abord effrayé des choses hardies qui étaient présentées contre les superstitions, les abus et les mensonges de l'Église de Rome, mais il était enfin convaincu. Dieu avait donné à Huss pour le soutenir au milieu des luttes, que bientôt il eut à rencontrer un ami fidèle dans la personne de Jérôme de Falsfisch, plus connu sous le nom de Jérôme de Prague. Il était, comme nous l'avons dit, un des étudiants de Bohème qui était allé à Oxford et il avait été converti aux vérités de l'Évangile exposé par Wycliffe. De retour dans son pays natal, il avait répandu les écrits du réformateur anglais et dans des discussions publiques, il avait soutenu les doctrines de la foi selon l'Écriture. Bientôt, l'Université de Prague fut partagée en deux camps. Les uns tenant pour les principes de Wycliffe, les autres s'y opposant. L'attention des chefs de l'université fut éveillée et en mai 1403, une réunion eut lieu pour examiner 45 propositions tirées, disait-on, des écrits de Wycliffe. L'université était partagée en nations Bohême, Bavière, Saxe et Pologne. Chacune avait une voix quand on votait sur quelques sujets. La Bavière, la Saxe et la moitié de la Pologne étaient de langue allemande, pouvaient toujours avoir la majorité sur les bohémiens. Dans le cas présent, le parti allemand l'emporta pour condamner les propositions de Wycliffe auxquelles plusieurs de ceux de Bohême étaient favorables. Il fut défendu sous peine de feu de les répandre et de les professer. Huss se contenta de nier que ces propositions se trouvassent dans Wycliffe. Jusqu'alors, Huss avait surtout attaqué dans ses prédications les désordres dans les mœurs de la cour, du peuple et du clergé, et insisté sur une réforme nécessaire à cet égard, en prêchant en même temps toujours plus clairement le salut gratuit par Jésus-Christ. Ce qui contribua surtout à ouvrir les yeux de Wycliffe sur les impostures de Rome fut le soi-disant miracle de Wilsnack. Dans cet endroit, situé en Prusse, dans la province de Brandebourg, se trouvaient les restes d'un ancien hôtel faisant partie d'une église détruite autrefois, sans doute dans quelques guerres. Vers l'an 1403, dans cet hôtel, on découvrit trois des hosties qui servent à célébrer l'Eucharistie dans l'église romaine. Quand on les trouva, elles étaient d'une couleur rougeâtre. Or, nous savons que les catholiques romains disent que quand les hosties ont été consacrées par le prêtre, elles sont changées dans le corps et le sang du Seigneur, et qu'ainsi le corps et le sang du Seigneur sont dans l'hostie. Quand donc on vit ces hosties rouges, on crut que le sang de Christ était devenu visible, que les hosties étaient teintes du même sang qui coulait dans les veines du Seigneur quand il était sur la terre. Le bruit de ce fait se répandit. On dit que c'était un miracle que chacun pouvait venir contempler et les foules accoururent. Le clergé de l'endroit encouragea la croyance à ce soi-disant miracle. Il y trouvait son profit car Wilsnack devint un lieu saint où, de toutes parts, de la Suède, de Norvège, de Hongrie et de Pologne et de toute la Bohême, on venait en pèlerinage avec de riches offrandes. Des miracles, disait-on, s'accomplissaient près de l'autel par la vertu des saintes hosties. Un fait montrera jusqu'où allait l'imposture de certains. Un citoyen de Prague qui avait une main estropiée s'était fait faire une main en argent et l'avait suspendue dans l'église comme offrande votive en l'honneur des hosties sanglantes, ainsi qu'on les appelait. Il était resté quelques jours dans l'endroit, très probablement inconnu des prêtres, et en réalité pour mettre à l'épreuve leur honnêteté. Mais un jour, il fut surpris d'apprendre que l'un d'entre eux avait déclaré publiquement que cette main en argent avait été offerte comme mémorial de la guérison miraculeuse de la main du donateur. Le pauvre homme ne put supporter cette fausseté. Il étendit devant tous sa main aussi malade que jamais, au grand désespoir du prêtre, mais par là éclairé lui-même ainsi que plusieurs autres. Les foules ne cessaient pas d'accourir et de se prosterner autour des hosties sanglantes. L'archevêque de Prague, qui s'appelait Zinek, qui au moins était un honnête homme, avait des doutes quant aux hosties et aux miracles qui s'opéraient dans ce lieu. Il nomma pour examiner l'affaire trois commissaires, dont l'un était Huss. Après une minutieuse investigation, ils rapportèrent que le miracle n'avait rien de réel, que les hosties n'étaient pas teintes de sang. Ils ne devaient leur apparence rougeâtre qu'à la moisissure provenant de l'humidité où elles avaient été exposées. L'archevêque défendit dans tout son diocèse les pèlerinages à Woodsnack. Jusqu'alors, l'archevêque et Huss avaient été en bon terme, mais cette entente ne dura pas. Bien que Zinek eût déclaré en 1405 qu'il n'avait point d'hérésie en Bohême, quelques membres du clergé avaient été accusés d'être favorables au principe de Wycliffe, et l'archevêque les avait sommés de répondre à l'accusation. L'un d'eux, Nicolas de Wilinowitz, fut jeté en prison, puis, ayant été relâché, fut banni du diocèse. Huss prit en main sa cause et écrivit à l'archevêque une lettre où il blâmait sa conduite. Comment, disait-il, des hommes souillés de sang, coupables de toutes sortes de crimes, marchent dans les rues avec impunité, tandis que d'humbles prêtres qui font tous leurs efforts pour combattre et détruire le péché, qui accomplissent leurs devoirs sous votre direction ecclésiastique, qui, pleins de bonté, fuyant l'avarice, et s'adonnent gratuitement au service de Dieu et à la proclamation de sa parole, sont jetés dans les cachots comme hérétiques et doivent subir l'exil pour avoir prêché l'Évangile. Un langage aussi courageux ne pouvait manquer de faire de l'archevêque Zinek un ennemi de Huss et fournissait un prétexte pour accuser celui-ci d'être un partisan de Wycliffe. La lutte entre les partis qui existaient dans l'université de Prague n'avait point cessé. Le roi Winceslas l'aggrava en rendant un édit qui donnait trois votes aux Bohémiens et un seul aux étrangers. Les Allemands résolurent, si le roi maintenait son édit, de quitter Prague. Le roi refusant de revenir sur ce qu'il avait décidé, un grand nombre de professeurs et d'étudiants se retirèrent. Cela amena la fondation de l'université de Leipzig. Huss, qui avait approuvé la décision du roi, fut nommé recteur de l'université de Prague. Ce fut un grief de plus contre lui de la part de l'archevêque qui, par le départ des Allemands, voyait se fortifier le parti de la Réforme. D'un autre côté, ceux qui avaient quitté Prague répandaient partout que Huss était entaché d'hérésie. Comme nous l'avons vu, le concile de Pise avait déposé les deux papes Grégoire XII et Benoît XIII et avait élu Alexandre V. L'archevêque de Prague, qui d'abord avait tenu pour Grégoire XII, reconnut le nouveau pape et obtint de lui une bulle contre tous ceux qui, en Bohême, soutenaient les doctrines de Wycliffe. De plus, la bulle défendait toute prédication dans les chapelles privées et condamnait au feu les écrits de Wycliffe. C'est évidemment contre Huss que le coup était dirigé. Sur ces entrefaites, Alexandre V mourut, empoisonné, dit-on, par son ami Balthazar Cossa, qui lui succéda sous le nom de Jean XXIII. Huss fit vainement appel au nouveau pape et l'archevêque résolut d'en finir et de mettre à exécution la bulle d'Alexandre V. Il commença par ordonner que tous les écrits de Wycliffe lui fussent livrés dans un délai de 6 jours pour être examinés. Mais sans l'avoir fait, il déclara son intention de les brûler. Et le 16 juillet 1410, malgré l'opposition de l'université et sous prétexte que le roi n'avait pas défendu leur destruction, il fut brûlé devant son palais environ 200 volumes des écrits de Wycliffe et d'autres réformateurs. C'étaient des manuscrits de prix, ornés de belles enluminures et avec des couvertures très riches. Cette exécution causa une grande indignation et plusieurs en prirent l'occasion pour tourner l'archevêque en ridicule. Il était fort ignorant et dut apprendre à lire, dit-on, lorsqu'il entra en charge. On fit des chansons qui couraient dans les rues de Prague. Notre archevêque doit apprendre son ABC afin qu'il puisse au moins comprendre ce qu'il a brûlé. Le roi défendu sous peine de mort de les chanter. Huss n'était pour rien dans tout cela. Il se contenta de dire « C'est une pauvre chose que de brûler des livres. Cela n'a jamais ôté un seul péché du cœur des hommes. Si celui qui a condamné ces livres ne peut rien prouver contre eux, il a seulement détruit quelques vérités, plusieurs belles pensées, et cela n'a servi qu'à multiplier parmi le peuple les troubles, les inimitiés, les soupçons et les meurtres. En effet, chose triste à dire, le sang avait coulé dans ces dissensions. » Quant à la défense de prêcher dans la chapelle de Bethléem, Huss ne pensait pas devoir obéir. Il estimait qu'il était protégé par l'acte de fondation de la chapelle, mais surtout il pensait qu'il devait obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il disait « Quelle autorité se trouve-t-il dans les saints écrits ou sur quel fondement raisonnable peut-on se baser pour défendre de prêcher dans un lieu si public et si convenable dans ce but au milieu de la grande ville de Prague? » Au fond de tout cela, il n'y avait autre chose que la jalousie de l'Antichrist. Huss comprenait et affirmait que l'appel divin à prêcher l'Évangile avait une autorité supérieure à n'importe quel appel de la part de l'homme. Où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Il continua donc ses prédications en laissant à Dieu les résultats. Huss aurait désiré réformer les abus de l'Église de Rome à laquelle il était attaché et dont il ne se sépara jamais ouvertement. Mais comment faire au milieu de la confusion et des luttes qui régnaient dans l'Église? Il avait à peser tout en présence de Dieu. Et il devait arriver, fortifié par Dieu, à prendre une résolution quant à ce qu'il devait faire. Obéira-t-il à Dieu pour autant qu'il avait compris sa volonté et irait-il contre le courant? Ou bien se laisserait-il aller avec le courant en évitant le mal autant qu'il le pouvait? Écoutons la conclusion à laquelle il arriva. « Afin de ne pas me rendre coupable par mon silence, abandonnant la vérité pour un morceau de pain ou par crainte des hommes, je déclare que mon dessein est de défendre, même jusqu'à la mort, la vérité que Dieu m'a rendu capable de connaître, et spécialement la vérité des Saintes Écritures, puisque je sais que la vérité demeure, qu'elle est puissante à jamais, qu'elle subsiste éternellement, et qu'avec elle, il n'y a point d'exception de personne. » Noble résolution. Au milieu des ténèbres qui alors couvraient l'Église, être déterminé à rester du côté de la lumière qui l'amènerait en collision avec les ténèbres et les puissances des ténèbres, c'était un vrai courage. Dieu seul pouvait l'inspirer à son fidèle témoin. Nous avons vu que Huss en avait appelé au pape. L'archevêque avait fait de même et fut écouté par le pape qui nomma le cardinal Othon dit Colonna pour examiner le cas de Huss. Le cardinal somma Huss de comparaître à Bologne où se trouvait alors le pape. Là, le réformateur ne pouvait s'attendre qu'à une condamnation. La reine Sophie prit en main la cause de son confesseur et le roi écrivit au pape et au cardinal en faveur de Huss, exprimant aussi sa volonté que la chapelle de Bethléem, à qui, disait-il, pour la gloire de Dieu et pour le salut du peuple, nous avons accordé des franchises pour la prédication de l'Évangile, il voulait qu'elle subsiste et que Huss soit confirmé dans ses privilèges et que notre loyal, dévoué et bien-aimé Huss soit rétabli sur cette chapelle et prêche en paix la parole de Dieu. Le roi demanda aussi que Huss fût excusé de ne pas se rendre à Bologne. Sur ces entrefaites, Colonna avait prononcé l'excommunication contre Huss pour n'avoir pas obéi à sa sommation. Mais le pape, se rendant à la lettre du roi, ôta l'affaire à Colonna et nomma un autre commissaire. Cependant, l'archevêque fit tous ses efforts pour persuader au pape de faire comparaître Huss devant lui et lui envoya, ainsi qu'aux cardinaux, de riches présents. Le pape nomma alors le cardinal Brancas, qui, sans l'avoir entendu, déclara Huss hérésiarque, c'est-à-dire chef d'hérétique, et plaça sous l'interdit la ville de Prague où Huss résidait. Alors, on rappelle, c'est à quoi l'interdit? Quand le pape disait à une ville ou à une région ou à un pays qui n'avait plus aucun sacrement, les prêtres disaient plus de messe, faisaient plus de confession, plus de baptême, plus de rien. C'était comme l'interdit, c'était qu'il n'y avait plus d'activité religieuse catholique. Et à cette époque-là, les gens étaient très superstitieux. Alors, pour eux, de ne plus avoir ces affaires-là, ça mettait une pression énorme. Alors, l'archevêque triomphait, et par ses ordres, le clergé se mit à fermer les églises. Mais ici encore, le roi intervint et confisqua les biens du clergé qui voulait maintenir l'interdit. Le peuple aussi se souleva contre les prêtres. Huss, cependant, profitant de ce conflit, continua tranquillement son œuvre, laissant le roi s'arranger avec l'archevêque et le cardinal. Combien tout cela est remarquable, et comme on peut y voir la main de Dieu qui s'étendait sur son serviteur pour le garder en se servant des passions des hommes. Car le roi, au fond, ne se souciait pas de la vérité et était en réalité un très méchant homme que ses sujets emprisonnèrent deux fois pour ses crimes. Le roi et l'archevêque en vinrent à un compromis. L'archevêque leva l'interdit et écrivit au pape qu'il n'y avait point d'hérésie en Bohême, et de son côté, le roi fit relâcher les ecclésiastiques qu'il gardait en prison et leur rendit leurs biens. La paix fut ainsi rétablie en quelques mesures. L'archevêque Zinec quitta la Bohême en septembre 1411 et mourut peu de temps après. Le pape Jean XXIII avait envoyé en Bohême un légat pour recruter les partisans contre ses adversaires. Le légat demanda au nouvel archevêque Albic de faire comparaître Huss devant lui. Il demanda tout d'abord au réformateur s'il voulait obéir au commandement apostolique. « Certainement, dit Huss, et de tout mon cœur. » Le légat, se tournant vers l'archevêque, lui dit, « Vous le voyez, le maître est tout prêt à obéir au commandement apostolique. » Mais Huss, s'apercevant qu'on l'avait mal compris, dit, « Entendez-moi bien, mon Seigneur. J'ai dit que j'étais prêt à obéir de tout mon cœur au commandement apostolique, mais j'appelle ainsi les doctrines des apôtres de Christ, et pour autant que les commandements du pape s'accordent avec elles, je m'y soumettrai très volontiers. Mais si je vois en eux quelque chose qui s'écarte de l'enseignement des apôtres, je ne leur obéirai pas, dussé-je voir le bûcher dressé devant moi. » Le légat n'insista pas. Il avait d'autres affaires et Huss échappa pour le moment. Alors, on sait que c'est Huss pour un moment. Alors, j'ai mis trois applications. La première, comprenons la puissance invincible de la parole de Dieu pour toucher les cœurs et transformer les vies. La région était complètement morte, une religion complètement formaliste. Il ne se passait plus rien en Tchécoslovaquie, à Prague. Et là, à cause de ces hommes-là qui se sont mis à prêcher la parole de Dieu, il y a eu des conversions en grand nombre, des vies transformées. Alors, on voit la puissance de la parole. C'est vraiment, on voit la main de Dieu à l'intérieur de tout ça. La deuxième application, rendons grâce à Dieu d'avoir donné à Jean Huss du courage pour poursuivre son œuvre, malgré les menaces et les oppositions. Alors, les personnes à cette époque-là savaient que si tu t'opposais à Rome, tu risquais le bûcher. Faut essayer de se rendre dans la peau du bonhomme. Décider d'affronter le pape au risque d'être brûlé, ça prenait du courage, pas à peu près. Pas un petit peu, là, énormément. Et on sait que ça peut pas, c'est impossible que ça vienne d'ailleurs que du Seigneur lui-même. Et troisième application, admirons la main souveraine du Seigneur dans le développement de son royaume. On sait que tous ces pré-réformateurs-là, Wycliffe, les Lollard et lui, Jean Hus, et après, ce qu'on va avoir appelé les Hussites, parce qu'après qu'on va avoir réussi à le tuer, il va se développer tout un mouvement dans ce pays-là, et il va y avoir énormément de problèmes sociaux, économiques, religieux. Ça va créer un grand mouvement. Et qu'est-ce que ça faisait en réalité? Ça préparait le terrain à l'arrivée des grands réformateurs, Luther et toute et Calvin et les autres. Alors, on voit que Dieu préparait le terrain par ces choses-là. Que le Seigneur soit loué, béni et adoré pour avoir dirigé souverainement l'avancée des vérités évangéliques dans le monde.
Amen. Amen.